Et donc là, j'invite avec grand plaisir le docteur Pierre-Yves Trénard, bon, compagnon de route de l'IPSEM et coordinateur médical du réseau Paris Diabète, avec un intitulé de conférence, ou du moins d'exposé. Vous avez dit parcours d'éducation, trois petits points de suspension. Pierre-Yves, merci.
Merci. Je voudrais juste commencer par deux remerciements. Un à mon maître qui avait une question permanente dans sa tête qui était « Es-tu sûr de savoir ce que tu es en train de faire actuellement ?» Et le deuxième remerciement, c'est Harry Miglianière. Nous sommes compagnons, je dirais, depuis plus de 20 ans. Et de temps en temps, quand on discute ensemble, il me dit « Mais attends, toi, tu es les mains dans le cambouis, là, et tu es en train de réparer un moteur, mais... pense bien que ce n'est pas un moteur de chevaux, lève la tête, c'est un 35 tonnes. » Alors, voilà, je voudrais simplement rapporter une expérience actuellement, peut-être sur un 35 tonnes, en tout cas sur une organisation qui est assez importante. Et je vais d'abord vous brosser un petit peu le tableau de ce qu'est cette organisation et ensuite vous faire part de résultats d'une évaluation pour essayer de comprendre un peu ce que sont les parcours de patients dans ce type d'organisation. Alors, un réseau, c'est donc une organisation, celle de Paris Diabète, elle existe depuis 2004 et elle a commencé à faire de l'éducation thérapeutique en 2006, donc c'est quand même relativement récent. Et les résultats que je vais vous montrer, ils portent sur l'époque 2007-2009. Les offres du réseau pour les patients sont à la fois des offres individuelles dans lesquelles il y a l'éducation thérapeutique et puis des offres d'éducation thérapeutique de groupe. Les patients, les gens qui s'inscrivent dans le réseau, peuvent participer à toutes ces offres, mais pas forcément à toutes. C'est une possibilité qui leur est offerte. Si on prend les offres individuelles, elles sont actuellement possibles pour à peu près 750 professionnels qui sont répartis dans tout Paris et qui sont des professionnels libéraux, médecins, infirmières, diététiciennes, podologues, pharmaciens et d'autres, mais ce sont eux qui sont majoritaires. Et puis vous avez quelques petites croix rouges qui sont dispersées, qui sont en fait les 9 services hospitaliers avec lesquels nous sommes en lien et qui sont autant de ressources possibles de partenariat. Ces professionnels, ils peuvent pratiquer donc des actes qui sont avisés éducatifs, c'est-à-dire qui sont supportés par des fiches qui les aident à cibler leurs actions sur des capacités de patients. Ces fiches sont remplies, sont renvoyées à la coordination du réseau et nous avons actuellement une très grosse base de données qui nous permet justement de travailler un peu sur ces parcours de patients. De l'autre côté, on a des ateliers d'éducation thérapeutique. Actuellement, on a la possibilité d'en avoir développé 9, c'est-à-dire qu'il y en a sur 4 thématiques, comme vous voyez. Et ces ateliers d'éducation thérapeutique sont animés par une 60aine de professionnels de santé qui ont été formés à l'animation d'éducation thérapeutique et qui pratiquent cette éducation pour... Voilà, on a 2500 patients qui sont répartis dans tout Paris. Il y a une 15aine de lieux de pratique d'éducation thérapeutique, à peu près à raison de 15 ateliers qui se tiennent chaque mois. Alors, quand on dit ce que l'on est en train de faire et quelle est l'organisation de ce réseau, en tout cas pour nos institutionnels, on leur donne ce schéma-là qui a l'avantage d'être tout à fait dans les clous. C'est-à-dire que le patient, il est inclus par un médecin, par un paramédical, éventuellement par lui-même via la coordination du réseau. Il a des bilans qui sont des bilans diagnostiques à visée éducative. Il revoit son médecin qui l'oriente vers des suivis individuels de professionnels paramédicaux. Et puis, il peut faire des ateliers de groupe. Il y a du retour d'information. Tout ça est absolument magnifique. Et la question que l'on se pose quand on est à la coordination d'un réseau comme celui-là, c'est franchement, est-ce qu'on est sûr que ça se passe comme on croit que ça veut se passer? Et donc, c'est la question qui nous a amené à faire une analyse sur une cohorte entre 2007 et 2009 de 1400 patients à peu près, qui ont ce profil qui est un profil finalement, je dirais, d'une population qui n'est pas très grave. Alors, quand on met sans événements graves, comme sont essentiellement des gens qui ont diabète de type 2, ce sont des gens qui n'ont pas eu d'accident cardiovasculaire. Donc, il y a à peu près, je dirais, une petite trentaine pour cent de patients qui ont eu des accidents cardiovasculaires. Ce sont des gens qui ont assez peu de traitements à l'insuline, mais s'ils ont des éléments de gravité, ils ont quand même des traitements à l'insuline. Et puis, il y a un tiers des patients qui sont franchement mal équilibrés, c'est-à-dire qui sont à plus de 8% d'hémoglobine glycée. Si on regarde comment est-ce que les gens sont inclus, ils sont inclus essentiellement par les médecins, surtout s'ils ont des éléments de gravité. Ils sont inclus pour un tiers s'ils ont par des parents médicaux, mais relativement moins quand ils ont des événements de gravité. Et puis finalement, il y en a assez peu qui s'incluent tout seuls, c'est moins de 10%, et ce sont des gens qui sont pas, qui ont un état de santé qui est plutôt satisfaisant. Alors, si on regarde la proportion de patients qui ont été inclus et qui participent à de l'ETP collectif, vous voyez que quand ils vont chez les médecins, ça donne un peu moins que quand ils sont inclus directement par les paramédicaux. Ceci dit, 60% des patients sont inclus par des professionnels qui ont été formés. Alors, quand on parle de formation, c'est que nous organisons tous les 15 jours des rencontres interprofessionnelles qui sont des lieux d'échange entre les professionnels. Et manifestement, pour faire participer les patients à un réseau, il faut quand même en avoir acquis, je dirais, la possibilité de collaboration avec d'autres professionnels. Si on regarde comment est-ce que les patients vont aux séances collectives, alors vous avez les chiffres suivants. C'est-à-dire que si on regarde le premier tableau, voilà, je suppose ça. Ah voilà, il est là. Manger équilibré, c'est tout ce qui est diététique. C'est 72% des patients qui participent aux ateliers collectifs vont à la diététique. Un tiers vont à l'activité physique, un tiers là et un tiers là. Ça correspond donc bien à des problématiques de patients diabétiques de type 2. Et quand on regarde le nombre de séances auxquelles ils viennent, en fait, ça correspond bien aussi à ce qui leur est proposé, puisque pour la diététique, nous avons 3 séances consécutives à 15 jours d'intervalle qui sont possibles, c'est la majorité des patients, et pour les autres ateliers, ce sont 2 séances de suite, et la majorité des patients y participent, sauf que pour les 2 derniers, qui sont vivre avec son traitement et prendre soin de ses pieds, vous avez un grand nombre de gens qui, au bout de la première séance, ont probablement acquis ce qu'ils venaient chercher. Si on regarde l'évolution du taux de participation mensuel, c'est un problème général en éducation thérapeutique ambulatoire. C'est qu'en fait, au début, il y avait moins de 50% des gens qui s'inscrivaient qui venaient. C'est le sentiment que beaucoup de patients, en fait, s'ils percevaient l'utilité, avaient du mal à venir jusque-là, c'est-à-dire se déplacer. Et au fur et à mesure du temps, vous voyez que ce taux de participation augmente. Nous pensons multifactoriel. D'abord parce que plus de patients savent de quoi on parle. Beaucoup plus de soignants savent de quoi on parle quand on fait de l'éducation thérapeutique. Et les efforts de la coordination en termes d'information, de rappel des patients et je dirais, beaucoup d'informations des patients sont plutôt payants. Autre point quand on s'est posé, la question qu'on s'est posée, c'est de savoir est-ce que c'est un parcours ou bien est-ce que les patients utilisent ces services un peu à la demande. Alors d'abord, il y a 22% des patients qui sont suivis uniquement par leur médecin. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent quasiment pas les prestations, même pas du tout les prestations du réseau. Quand on regarde les autres, on voit qu'en fait, il y a 14% des patients qui n'ont qu'un suivi paramédical, c'est-à-dire qu'ils voient un ou plusieurs paramédicaux. Il y a 7% des patients qui ne font que des ateliers de groupe. Il n'y a que 4% des patients qui font la totale, c'est-à-dire qu'ils vont avoir l'éducation individuelle, l'éducation de groupe et puis leur médecin en suivi. Et puis, il y a 53% qui font un mix. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très très bien tout ce qu'ils font, mais quand on regarde l'ensemble de tous ces patients qui ont participer, je dirais, à des activités d'éducation thérapeutique. Alors, on s'est interrogé de savoir si on était dans les clous par rapport aux recommandations que font les institutions, qui sont qu'on va être financé à partir du moment où un patient a fait un entretien individuel, deux, trois ateliers, et ensuite un autre entretien individuel. Et là, on s'aperçoit que 87% des patients ne le font pas. Il y a probablement multiples raisons, mais le parcours complet tel qu'on pourrait l'imaginer est probablement une gageure, en tout cas quelque chose qui n'est pas vraiment d'actualité dans les pratiques actuelles d'éducation thérapeutique en ambulatoire. Alors, quelles sont les forces de proposition? Parce que peut-être que ça dépend de qui propose l'éducation thérapeutique. Quand c'est un professionnel paramédical, ça donne à peu près 9% de parcours éducatif complet. Quand c'est un médecin, ça donne 15%, c'est pas très différent. Mais quand c'est médecin plus paramédical, alors c'est beaucoup plus performant. C'est-à-dire que probablement, il faut la conjonction pluridisciplinaire pour que les patients participent à de l'éducation thérapeutique et notamment à l'éducation thérapeutique de groupe et individuelle. Si on regarde les délais et les durées d'utilisation du réseau, on s'aperçoit que, en fait, vous voyez les délais, c'est-à-dire que les gens utilisent, finalement, que ce soit en éducation thérapeutique individuelle ou collective, ils utilisent assez rapidement ces prestations-là. Et quand on regarde le délai entre la première et la dernière prestation individuelle ou collective, on voit que ça se fait relativement rapidement. Globalement, les patients mettent à peu près 2 mois pour commencer à utiliser une prestation du réseau. C'est comme s'il y avait un délai d'attente et de réflexion. 1/3 des patients ont fini en 6 mois. 1/3 ont fini en 6 à 18 mois. Et 1/3 continue au-delà de 18 mois. C'est-à-dire qu'il est probable, et ça nous ne sommes pas capables de le définir, il est probable qu'il y ait des gens qui picorent. C'est-à-dire qu'ils viennent chercher de temps en temps une réponse. Et puis ils vont revenir à un autre moment chercher une réponse, et que l'illusion qu'on pourrait avoir que le parcours est un parcours complet, c'est-à-dire qu'il y a une continuité et une sorte de finitude à l'éducation thérapeutique, bien finalement c'est une illusion, parce que c'est probablement pas du tout comme ça que ça fonctionne. Bon, si on regarde les résultats, par contre, on regarde les résultats, on voit que les gens s'améliorent. C'est-à-dire que 40% des patients ont amélioré leur niveau pour chaque capacité en diététique, ce qui est quand même assez énorme. C'est-à-dire que l'organisation globale, ce fonctionnement global, ça améliore manifestement les capacités. Et puis si on regarde l'hémoglobine glycée, parce que quand même on n'échappe pas à celle-là, on voit que l'hémoglobine a diminué chez 55% des patients, et surtout, je vous avais dit, il y a à peu près 30% des patients qui ont une hémoglobine glycée qui est supérieure à 8%, et donc 2 ans après, on n'en a plus que 18%, ce qui est quand même relativement satisfaisant. C'est-à-dire que globalement, les gens vont mieux, ont appris des choses, et on a le sentiment que finalement, cette organisation leur a servi à apprendre quelque chose. Maintenant, au terme de cette présentation rapide de quelques résultats, se pose le problème de savoir, quand on fait une évaluation ou quand on regarde ce qui se passe, finalement, à quoi ça va servir? Et qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme option à la suite de cette évaluation? Une première option, c'est de se dire qu'il faut continuer à professionnaliser l'offre d'éducation thérapeutique, parce que, c'est-à-dire qu'on est dans ce domaine-là, pas encore très très avancé, et nous travaillons donc à fabriquer des valises qui aident les animateurs à avoir un discours qui soit relativement cohérent. Nous travaillons à améliorer les méthodes qui sont des méthodes de plus en plus participatives dans les ateliers. Et puis nous travaillons aussi avec les groupes professionnels pour améliorer l'offre d'éducation thérapeutique individuelle. Une des difficultés, c'est de savoir jusqu'où une organisation comme un réseau doit être producteur de ressources. Et où est-ce qu'on va pouvoir, nous, trouver aussi des ressources qui vont nous permettre de continuer à avancer? C'est terriblement prenant que de professionnaliser l'éducation thérapeutique. Et ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de travail pour tout le monde. Deuxième chose, deuxième option, c'est qu'il faut continuer à diversifier les formats de formation et de sensibilisation. Alors, vous voyez qu'ici, il y a à la fois de la sensibilisation par Internet avec des brèves, mais il y a aussi beaucoup de rencontres interprofessionnelles, il y a des supports, il y a des journées, il y a des permanences maintenant mensuelles d'éducation thérapeutique. Alors là se pose aussi le problème de savoir jusqu'où il faut aller dans la professionnalisation de la formation, les liens que l'on peut faire avec les sociétés de formation comme l'IPSEM qui existe, et je vous passe les conflits d'intérêts qu'on peut avoir quand on fait partie des deux. Notre option, qui est de se dire que finalement, si c'est le patient qui choisit, en tout cas c'est l'impression, conseillé par des professionnels qui collaborent entre eux, est-ce que le patient peut être porteur de son propre programme, et est-ce que finalement l'évaluation, c'est pas aussi l'auto-évaluation, c'est-à-dire encourager un maximum les patients à participer à une, attends, je me trompe à chaque fois, à participer à leur propre évaluation. Mais en regard de cette auto-évaluation, il est évident qu'il y a une nécessité d'évaluation des pratiques professionnelles. Et le travail qui doit être, à notre avis, aussi engagé de plus en plus, ce sont à la fois des travaux interprofessionnels et puis des retours d'informations qui se font à la fois aux médecins, mais aussi à tous les autres professionnels paramédicaux, sur le parcours des patients qu'ils ont conseillés dans le cadre de ce réseau. Enfin, la dernière option, c'est celle de savoir s'il faut rentabiliser ou faire des choix. Pour la coordination, assurer la coordination de ce réseau, nous sommes 3 temps pleins et demi. Je veux dire que vraiment je rends hommage aux autres coordinateurs avec qui je travaille, parce que nous sommes tous des hyperactifs et qu'il y a peut-être un moment où la négociation avec nous-mêmes et puis avec les institutions aboutit à un certain terme, qui est de dire que où est-ce qu'on outrepasse les missions qui nous sont confiées et comment est-ce que l'on va faire pour continuer à développer l'éducation thérapeutique dans un système qui est en négociation permanente avec les institutionnels qui nous disent voilà comment il faut faire les choses, conseillés par des théoriciens, et en même temps une pratique qui nous dit que finalement ça ne se passe pas vraiment comme on le croit, que c'est un peu plus complexe que ça, et que l'offre d'éducation thérapeutique, eh bien, est-ce qu'elle doit être faite tout azimut, c'est-à-dire une grande panoplie, mais qui ne s'arrêtera jamais, ou est-ce que il faut finalement quand même faire des choix de rentabilisation. Ceci nous amène donc à la question qui est de savoir si le patient choisit son propre parcours, alors ce parcours ne peut pas lui être imposé. Mais on peut bien se dire que finalement, ça peut aboutir aussi à un peu n'importe quoi et que dans une idée de rationalisation, ou en tout cas parce que c'est le contexte actuel, je dirais, d'une certaine rentabilisation de l'organisation, on peut se demander si vraiment il faut le faire ou il ne faut pas le faire. Voilà.
Merci beaucoup, Pierre-Yves, pour cette analyse descriptive et réflexive sur le réseau Paris Diabète.